La femme du peintre, par Octave Mirbeau. Vers le soir, la malade eut une dernière convulsion, poussa un dernier râle, mourut. Et longtemps, devant le pâle cadavre qui se refroidissait, le mari, l'éminent peintre Barnèse, demeura anéanti, ne comprenant pas, ne pouvant croire que la mort fût venue comme ça, si vite, lui ravir sa femme. En 3 jours emportée, en 3 jours elle, si belle, si vivante, d'une chair si glorieuse, d'un dessin si pur, si correct, si renaissance. En 3 jours, elle qui posait avec de si admirables, si académiques mouvements pour les impératrices byzantines, pour les courtisanes, les nymphes, les saintes. Elle qui avait valu une première médaille pour sa mort d'Agrippine en 3 jours. Il n'y avait pas une semaine qu'elle était là, couchée sur la table à modèle, parmi des soies jaunes et des coussins écarlates, posant pour une Cléopâtre, avec laquelle il eût certainement remporté la médaille d'honneur, conquis un siège à l'Institut peut-être. Et Barnèse revoyait la rondeur des bras pendants et cerclés d'or, la foisonnante lourdeur des cheveux épars, le ventre radieux, les seins éblouissants, le rebondissement merveilleux des hanches, le satinage des jambes. En 3 jours, tout cela éteint, tout cela perdu, tout cela disparu, c'était affreux, impossible. « Mathilde, ma petite Mathilde, gémissait le malheureux, parle-moi. Ça n'est pas vrai, dis que tu es morte. C'est une blague, une bonne blague que tu me fais. Tu poses pour une Ophélie, pour une Juliette, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas mort, tu vis, parle-moi. » Il se pencha, et sur ses lèvres il sentit le froid des lèvres mortes, un froid qui le brûla comme un fer rouge. Alors il s'affaissa le long du lit, enfouit sa tête dans les draps et sanglota. « mon Dieu, elle ne pose pas, elle ne posera plus jamais, jamais !» Barnèse ne voulut de personne pour veiller sa femme et consigna sa porte aux consolations importunes. Seul, il procéda à la toilette funèbre. Seul, il disposa sous le lit les fleurs, les grappes odorantes de lilas blanc, les roses blanches, les grands lys blancs, les boules de neige. Paré d'une robe blanche, et sur la blanche jonchée couchée, Mathilde semblait dormir. Non, vraiment, l'éminent peintre Barnèse n'avait pas de chance. L'année dernière, il avait perdu un enfant, son fils unique, un enfant joufflu, potelé, frisé, délicieux, qui déjà posait comme un petit homme pour les amours et pour les anges. Et voilà qu'on lui arrachait sa femme, maintenant. Il ne lui restait plus personne à aimer, et il était seul, si seul, si seul que la pensée de la mort lui fut un instant comme une consolatrice. À quoi bon vivre? Et pour qui? Et pourquoi? Tout s'écroulait, tout, jusqu'aux égoïstes jouissances de l'art, jusqu'à ce délicieux martyr de créer, jusqu'à ces divins enthousiasmes, ces folies sublimes, qui d'un ton de chair, d'un coup de soleil sur la mer, d'un lointain perdu dans les brumes, font surgir, surgir et palpiter les poèmes du rêve charnel, les médailles, les décorations, les prix forts. Pendant quelques minutes, il eut l'idée de commander un cercueil plus large, un double cercueil, au fond duquel il pourrait lui aussi s'allonger à côté de sa chère femme, sa Cléopâtre inachevée, sa triomphante Agrippine, mon Dieu, et lui, son petit Georges, qui, tout nu, tout bouclé de blonderie folle, une rose au cou, un carquois en sautoir, sortait si délicieusement du déroulement de pendrels fleuris, ou bien volait dans les fonds d'ocre avec des ailes blanches, mon Dieu. Dans la nuit, succombant à la fatigue, au brisement de l'émotion, il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil inondait de clarté joyeuse la chambre mortuaire. Barnèse se reprocha de s'être laissé engourdir par le sommeil, il s'accusa même. Et j'ai dormi, tandis qu'elle, c'est vrai pourtant qu'elle est morte. Que vais-je devenir? Je n'ai plus rien, rien, la peinture. Il fit un geste de dégoût. La peinture, oui, la peinture. Je l'ai sacrifié, l'amour de ma femme, de mon fils, je les ai tués, c'est évident. Qui me dit qu'en posant, ma femme n'aura pas pris froid? Non, non, plus de peinture, je brise ma palette. Très pâle, les paupières gonflées, Barnèse regarda sa femme longuement, doucement. Je devrais mourir. Je devrais me tuer, là, près d'elle, je devrais... Mais peu à peu, ses yeux perdirent leur expression de douleur, et peu à peu, leur regard, tout à l'heure angoissé et humide, eut cette concentration, cette tension de toutes les forces visuelles qui font luire, dans un clignement féroce, l'œil du peintre quand il se trouve en présence d'une nature qui l'intéresse, et il s'écria « Quel ton ! Ah, sacristi, quel ton !» Traçant ensuite avec le doigt un encercle isolateur qui enveloppait le front, la joue et une partie de l'oreille, il se parla à lui-même. La beauté de ça, hein ? Non. Mais la finesse, la délicatesse, la modernité de ça, Mazette, il n'y a pas à dire. Cet horrible Manet avait vu ça tout de même. Il touchait le nez, dont les narines pincées n'étaient plus que deux petites barres violettes. Le ton de ça est assez inouï. Il indiquait l'ombre sous le menton, une ombre transparente d'un rose bleu infiniment délicat. Et ça, nom d'un chien. Son doigt revenait au front, aux cheveux, à l'oreille. Et le rapport de ça, et l'arrangement de ça, matin, ce que c'était épatant. D'un large mouvement circulaire, sa main se promenait sur la robe, sur le drap chargé de fleurs. Et les blancs de ça, et les lilas, et les gris. Et subitement, il se recula, cligna de l'œil, mesura de ses deux mains l'espace que le motif prendrait dans sa toile, et il disparut. Il revint bientôt, encombré d'objets de peinture. Il installa un chevalet, et il se mit à travailler avec acharnement. Durant toute la journée, on entendit près du corps inerte, verdissant parmi les bottelets de fleurs, que le tapotement de la brosse sur la toile et de temps à autre le chant d'une monotone et incohérente scie d'atelier que Barnès fredonnait d'habitude pour accompagner son travail. Le lendemain matin, dès le jour apparu, il avait repris le travail, se hâtant, fiévreux, maugréant contre le menton de Mathilde dont il ne pouvait attraper la valeur. Mais avec quoi a-t-il fait ce sacré menton? Et puis tout fiche le camp. Hier c'était lila, aujourd'hui c'est orangé. Allons bon, c'est vert maintenant. Oh, ma pauvre Mathilde, tu ne poses plus comme autrefois, tu sais. Et la joue gauche qui ne tourne pas, et les contours qui se raidissent, nom d'un chien, que c'est embêtant. Ces machines-là, on devrait les enlever dans la séance. Barnès fut interrompu par l'entrée soudaine du domestique. Allons, qu'est-ce encore? Je t'ai défendu de me déranger. Le domestique répondit gravement. « Monsieur, c'est les pompes funèbres. » Barnès éclata. « Les pompes funèbres, il ne manquait plus que ça. Envoie-les au diable. »« Mais, monsieur, répliqua le larbin, c'est pour madame. »« Eh bien quoi, madame, je n'ai pas fini. J'en ai au moins pour 2 heures. Occupe-toi des pompes funèbres, donne-leur à boire, fais-leur visiter l'atelier. Ou plutôt non, écoute. » Il fit signe à son domestique d'approcher, et gaiement, avec une grimace gamine sur ses lèvres, où se retrouvait tout entier le bohème qu'il avait été jadis, il recommanda « Tu leur diras aux pompes funèbres qu'ils se sont trompés de maison et que c'est dans la rue à côté. Mais monsieur, allons, fiche-moi la paix, hein ?» Et il se remit à peindre. Le soir, au retour de l'enterrement, Barnès s'enferma dans la chambre, et longtemps, l'œil sombre, le front plissé, la tête dans les mains, il resta prosterné devant la toile, tout ce qui lui restait de sa chère Mathilde. Au bout d'une heure, comme la nuit venait, il se leva. « Oui, je vois bien tout ce qu'il y aurait encore à faire, » soupira-t-il. « Ça n'y est pas, mais quoi ?» Et regardant le lit vide où quelques fleurs oubliées tristement se fanaient, il ajouta avec un regret suprême « Mais quoi ? Il me faudrait la nature !» Ainsi s'achève la femme du peintre d'Octave Mirbeau.